tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'édition spéciale du festival Désir Désir qui se déroule cette année en ligne et qui se déroule aujourd'hui le 17 mai à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Vous nous écoutez sur Radio Active, sur Radio Béton et sur Radio Campus car nous faisons cette émission tous ensemble jusqu'à 12h30. Je suis donc avec Mélissa, Arnaud,
bonjour,
Chloé,
bonjour,
et David. Alors c'est un vrai plaisir de se retrouver aujourd'hui tous ensemble et en direct. Nous avons installé donc notre plateau dans les locaux de la bibliothèque de Tours. Merci donc aussi à toute l'équipe de nous accueillir ici. Et il y aura dans cette émission plusieurs invités. On commencera avec Michaël Achard, président du festival Désir Désir, Johan Jager, co-président du centre LGBT de Touraine, Sylvain Combette de l'association Tour Angèle. Et nous entendrons aussi Fatima Das à propos de son livre La Petite Dernière, mais aussi Zoé Planton et Aloïs Jackson, réalisateurs du documentaire Je veux juste être heureuse, diffusé ce soir en ligne. On finira également en musique et en live avec le duo Grande que l'on est ravis d'accueillir. Et nous entendrons aussi les cartes postales sonores qui ont été réalisées par le concours que nous avions mis en place en décembre dernier par rapport au festival Désir Désir. Je laisse la parole à présent à Mélissa et Michaël Achard pour commencer cette émission. Et vous pouvez aussi nous regarder sur la page Facebook du festival Désir en live.
Bonjour Michaël.
Bonjour.
Alors, il s'agit de la 28e édition du festival Désir Désir, dont les dates initiales étaient du 20 au 26 janvier 2021. Donc on peut rappeler peut-être pour nos auditeurs que le festival Désir Désir, c'est un festival qui aborde les thématiques du désir, et de l'identité de genre. Comment aimerais-tu compléter cette présentation ?
Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le festival ? Il y a tellement de choses à dire. C'est qu'en fait, c'est un festival qui est né en 1992. La première édition, c'était en janvier 1993. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'objectif, c'était de donner de la visibilité aux personnes LGBTIQ. On abordait aussi la question de la place des femmes dans la société. C'était de donner de la visibilité, en fait, aux minorités. Et évidemment, à l'époque, ça faisait forcément débat. Depuis, le festival s'est développé. On est passé d'un festival simplement de cinéma à un peu un festival, on va dire, pluridisciplinaire qui va intervenir dans différents champs artistiques et culturels, que ce soit le théâtre, la danse, les arts plastiques, les concerts et trois petits points. Et puis, on va intervenir aussi sur des thématiques particulières. On va aussi aborder des focus avec l'objectif de réfléchir de manière plus intellectuelle sur certains sujets qu'on trouve pertinents. Donc par exemple, les années précédentes, on a abordé la question du monde arabe et la question du désir. On a aussi abordé la question des personnes qui émigrent ou immigrent et ces notions liées aux minorités de genre et d'orientation sexuelle. Voilà, donc cette année on avait préparé tout un grand festival avec une quarantaine d'événements, mais tout est tombé à l'eau.
Et alors on peut peut-être rappeler que le thème que vous aviez choisi, c'était l'intersectionnalité, est-ce que c'est bien ça ? D'où le logo avec deux bandes supplémentaires, une bande marron et une bande noire. Pourquoi vous aviez choisi ce thème-là ? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque avec la saison Africa 2020 par exemple ?
Ça nous a semblé naturel et pertinent, comme on essaye de suivre l'actualité pour aborder justement ces focus. On est juste après le mouvement Black Lives Matter, les événements contre les personnes racisées, les violences policières, tous ces sujets qui aujourd'hui enflamment un peu l'actualité, encore dernièrement avec cette marche contre les LGBTI-phobie qui devait se tenir samedi dernier et qui a été annulée parce que c'est toute une polémique et donc c'est le centre LGBTI de Touraine qui va aborder le sujet. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose d'actualité qui questionne, quelque chose qui n'est pas nouveau, important, tous ces sujets liés aux minorités et à leur organisation militante. Ça fait 40 ans, 50 ans que ça existe. Donc là, on a justement décidé d'aborder ce sujet-là, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a toujours essayé de faire en sorte que le festival représente l'ensemble des minorités, les personnes invisibilisées. Et ça, ça se fait aussi dans les choix de programmation. Quand on va sélectionner un tel film ou tel film, il y a quand même derrière le choix de mettre en avant un sujet, mettre en avant une réalisatrice ou un réalisateur, et on va chercher justement à donner cette visibilité là, que ce soit des personnes trans ou autres. Donc par exemple l'ensemble des réalisateurs sont des réalisatrices en fait, et ainsi de suite.
Alors juste pour préciser, intersectionnalité, peut-être qu'il y a certains auditeurs pour qui c'est un concept compliqué ou qui ne connaissent pas ce que c'est. Est-ce que tu veux expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ?
Oui, alors en fait c'était un concept américain à l'origine, plutôt on va dire d'ordre féministe, c'est-à-dire c'était des femmes qui vont subir plusieurs types de discrimination, discrimination en tant que femmes, mais aussi discrimination en tant que classe sociale, telle classe sociale, en tant que personne racisée, en fait, ça va être cette notion-là est liée au fait de subir plusieurs types de discrimination. Alors, il y a ce côté négatif des choses, mais aussi on peut voir le côté positif, et c'était justement l'objet du festival, c'est qu'à travers l'intersectionnalité, ça veut dire aussi qu'on appartient à plusieurs identités, pourquoi pas plusieurs communautés. Enfin, il y a aussi quelque chose qui se construit derrière, il y a aussi quelque chose de positif. Il n'y a pas que l'aspect violent et négatif de l'intersectionnalité.
Ah, donc convergence des luttes ?
Tout à fait, on retrouve derrière un concept militant, une convergence des luttes. Comment lutter contre une discrimination, les discriminations LGBT, mais aussi celles qui la rejoignent, que ce soit les discriminations en tant que femme, que personne racisée, d'origine sociale diverse et variée, etc.
Est-ce que tu veux nous donner à voir comment cette thématique était déployée dans la programmation initiale du festival ?
On avait justement donné la parole à Fatima Das, donc ça c'est des choses qu'on regrette. Donc elle avait notamment écrit l'édito du festival qu'on laisse à un ou une intellectuelle, un ou une réalisatrice. Donc elle avait écrit un super bel édito sur ce sujet-là. De toute manière, c'était le thème aussi de son roman. Et puis après, on l'a déployé en fait à travers différents choix de programmation, à travers des films, et puis aussi les partenaires, vu que comme je vous disais, il y a 40 événements, et puis les partenaires ont aussi abordé le sujet dans leur programmation.
Alors justement, des partenaires en lien avec cette thématique de l'intersectionnalité, peut-être qu'on peut par exemple citer le Festival Plume d'Afrique ?
Oui, qui n'est pas partenaire du Festival des Mais
est-ce que vous aviez prévu par exemple de travailler avec eux ?
Non, on n'avait pas prévu parce que Plume d'Afrique s'organise une fois tous les 2 ou 3 ans, il me semble. Donc on n'a pas encore eu l'occasion d'organiser des choses ensemble. Et après, c'est aussi un festival de bénévoles qui associe des partenaires et l'organisation est la leur. Il y a juste l'occasion, c'est pas encore présenté, on va dire.
Donc ça veut dire que c'est, comment dire, dans l'idée de faire une convergence des luttes, des événements, tout ça, est-ce que c'est compliqué pour un festival comme le vôtre avec certains partenaires ou pas du tout ?
Il y a 30 ans c'était compliqué, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Vraiment c'est facile, je trouve, par rapport à d'autres événements que j'ai pu organiser, c'est facile d'organiser le festival. Il y a une reconnaissance des cinémas studios et du festival, que ce soit à Tours et en même temps en France, qui fait que qu'on organise des événements très facilement. Et puis on a un soutien aussi des institutions publiques, même si les sujets peuvent être tabous d'un certain côté, les institutions publiques, comme la bibliothèque de Tours, nous font confiance aussi. On organise des événements ensemble, on les pense ensemble. Après, il y a différents types de partenariats. Puis derrière, il y a aussi la ville de Tours, le conseil départemental, la région. Donc tout ça fait que c'est facile d'organiser des événements.
Donc justement, on a quand même vécu une année particulière, pourquoi essayer de l'oublier ? Parce que tu nous parles de ces soutiens financiers aussi, quel a été l'impact pour votre festival de cette année particulière ?
L'impact, c'est encore difficile à dire parce qu'en fait l'édition, on ne l'a pas encore vraiment organisée. Donc on a dû repenser tout le festival. Tout était prêt hein, en courant décembre et c'est toute fin décembre qu'on a décidé de l'annuler, évidemment, compte tenu du contexte sanitaire. Donc on est obligé de repenser tout le festival et donc là, honnêtement, on n'a pas trop de visibilité sur la réalité financière. Après, les institutions publiques sont toujours là pour nous appuyer. Les cinémas studios sont toujours présents et réouvrent mercredi. Donc pour le moment, je ne peux pas trop en dire plus, quoi.
Cela dit, il y a quand même des événements qui sont prévus, des événements dématérialisés. Est-ce que tu veux nous en dire plus ?
Oui, justement, dans le fait de repenser un peu le festival, on est parti sur l'idée d'avoir des projections à distance. Alors ça a été un peu compliqué, hein, parce que forcément, c'est pas du tout notre ADN. Hein. On est un festival très convivial où on échange, on réfléchit, on s'amuse, on danse. Et donc, on s'est dit quand même, il faut qu'on essaye ces projections à distance. Donc on en a organisé deux. On s'est dit qu'à l'occasion du 17 mai, Journée mondiale de lutte contre l'LGBTI-phobie, c'était l'occasion ou jamais. Donc une projection qui va se tenir ce soir à 20h30. Je veux juste être heureuse. C'est un documentaire d'une heure à peu près. Et les réalisateurs et réalisatrices seront présents pour débattre du sujet autour de la transidentité. Donc on suit la parole de jeunes personnes trans qui expliquent leur ressenti sur leur identité, sur comment ça se passe et quel est le regard de la société. Et puis mercredi, toujours à 20h30, c'est un autre film, No Hard Feelings. Donc là, on est plutôt dans une fiction très, je trouve, à la... Il y a un peu de Xavier Dolan dedans, un peu pop, très musical. On suit un jeune immigré iranien en Allemagne qui vit sa vie, qui fait des petites conneries, etc. Et puis après une connerie, il doit aller faire des travaux d'intérêt général dans un centre de détention pour réfugiés. Et là, il tombe amoureux et il doit faire face à une certaine réalité. Notamment du garçon dont il est tombé amoureux qui doit être expulsé. Donc voilà, deux propositions très différentes justement pour donner envie de regarder l'un ou l'autre ou les deux. En tout cas, un choix de programmation dans la diversité comme à chaque fois.
Et il y a aussi la rencontre avec Fatima Daas sur vos réseaux sociaux.
Tout à fait. Donc là, c'était un événement qu'on voulait absolument faire avec la bibliothèque de Tours. Qui n'a pas pu se faire et donc on a quand même voulu le réaliser donc à distance. La bibliothèque va sûrement dire un mot tout à l'heure. Voilà.
Et est-ce que ces nouveaux formats penses-tu que ça peut influencer les futures éditions du festival ? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez peut-être repenser ou inclure dans les prochaines formes du festival ?
Honnêtement, je sais pas du tout, parce que, comme je le disais, ce qu'on aime chez Désir, c'est l'aspect très convivial et c'est le fait de se retrouver entre personnes qui peuvent être isolées ou discriminées aussi. À voir, on va voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui et puis mercredi. On a fait aussi des réunions avec d'autres festivals, avec une quinzaine d'autres festivals en France, parce qu'on est en train de préparer les premières rencontres des festivals de cinéma LGBTI à Tours. Et de leur côté, c'est un peu la même idée, quoi. L'identité d'un événement culturel, ça se passe par le présentiel, par de l'humain, quoi. Donc pourquoi pas aller de temps en temps vers ces choix-là, mais d'une certaine manière, ils sont un peu excluants déjà pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet et n'ont pas d'ordinateur. Enfin, à voir.
Eh bien, merci à toi et peut-être qu'on peut aussi signaler à nos auditeurs que cette année, nos trois radios, donc Radio Active, Radio Béton et Radio Campus, avions proposé au festival de faire un concours sonore, donc un concours de cartes postales sonores autour du thème à fleur de peau. Alors, on peut remercier aussi Anthony Pintens qui nous a aidés sur ce projet de cartes postales sonores.
Ouais. C'était une super idée. L'objectif, c'était d'associer le public. Alors, on essaie de le faire de différentes manières, notamment à travers la programmation sur Facebook. Des fois, on fait des appels. Vous avez envie de regarder quel film pendant le festival. Et donc, il y a aussi ce biais-là de carte postale sonore qui est très original. Et en plus, il y a eu pas mal de retours. Donc on était très contents, et puis en plus c'était aussi porté sur la thématique, enfin le focus du festival qui était lié à l'intersectionnalité, donc ça faisait sens, ça faisait sens.
Voilà, donc on s'est écharpé bien sûr après pour départager les gagnants, puisqu'on a eu 18 contributions qu'on vous invite bien sûr à les retrouver sur SoundCloud, pardon pour mon excellent accent. Voilà, vous pourrez écouter toutes les contributions et nous en avons élu 3, voilà, donc on a désigné 3 gagnants tous ensemble et nous avons la chance d'en avoir un ici avec nous sur le plateau. Bonjour Daniel Begdad.
Oui, bonjour.
Alors Daniel, la carte postale que tu avais proposée, c'était, je vais te tutoyer comme ça, c'était Kalou. Alors est-ce que tu veux nous en dire un mot ?
C'était mon premier podcast, donc ça m'a fait plaisir de participer à ce concours et d'écouter toutes les autres productions aussi, parce qu'il y a plein de belles choses, très variées en fait, qui abordent le thème de l'intersectionnalité sous divers angles. C'était le but du concours. Et ça fait plaisir de participer à ce genre de création parce que déjà moi ça m'a fait flipper, je l'ai mis au dernier moment, c'était jusqu'au 31 décembre, je crois que j'ai attendu jusqu'au 31 pour dire allez hop, vas-y envoie-le, c'est bon, tu verras, ça va pas te tuer. Qu'est-ce que je dis ? Oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de personnes qui dans leur coin en fait réfléchissent à des choses auxquelles moi aussi je réfléchis dans mon coin quoi. Et de manière différente, mais avec, j'allais dire, la même liberté d'esprit quand même, de s'affranchir aussi de toutes ces contraintes éducationnelles, politiques, sociales, etc., dont on peut parfois se sentir victime, et qu'en fait, c'est pas forcément nous qui sommes victimes, au contraire, on est plutôt, j'allais dire, acteurs, actrices d'une certaine ouverture d'esprit, que peut-être la société, l'éducation, la norme, etc., puisque la norme, on va en parler justement, à laquelle on ne se sent pas justement être, et que je trouve, j'ai envie de dire, vive la différence. Et c'est pas en fait, je parle de tous celles et ceux qui ont fait des cartes postales sonores, c'est pas qu'on est différent, c'est qu'on n'est pas comme les autres, quoi. Et c'est bien d'ailleurs, tant mieux. Parce que des fois, quand je vois des foules, ça peut me faire un peu peur. Alors, dans un sens comme dans l'autre, ça peut être... Il y avait une grande foule, par exemple, samedi dernier, il y avait la marche des fiertés. Là, ça m'a fait plaisir de voir cette foule-là. Ça m'a revigoré, même donné des forces. Ah, tiens, on n'est pas tout seul, c'est cool. Voilà. Je ne suis pas en plus, j'allais dire, concerné par les discriminations faites aux minorités LGBTIQ+. On pourrait penser d'un premier abord. Sauf que, dans un deuxième abord, quand on s'intéresse à la question, on s'intéresse qu'il y a des personnes, donc par exemple, si je veux parler des personnes transgenres, qui ne se reconnaissent pas dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Et donc moi-même, en tant qu'homme, je peux me demander, tiens, mais est-ce qu'aussi, je ne serais pas aussi quelque part victime d'une éducation et d'une normalisation qui ferait que, dans mes comportements, dans mes attitudes, je reproduirais, j'allais dire, un genre dans lequel j'ai le pouvoir et tranquille, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi se prendre la tête ? Et une autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a les personnes I, comme intersexes aussi, qui posent la question du genre au-delà de l'homme et de la femme, et donc de cette différence physiologique qui est faite à la naissance. Et ça aussi, c'est important, parce que ça questionne le genre et ça questionne notre identité, notre rapport à notre corps, forcément notre rapport au monde, notre rapport, notre esprit, notre langue aussi, telle qu'on peut la partager avec les uns, les unes, les autres. J'ai beaucoup de choses à dire, hein. Ça fait parler en fait, c'est ça qui est bien avec votre histoire de podcast, votre jeu, votre concours. C'est que ça fait parler et que, j'avoue, je ne parle pas spécialement de ces choses-là. Et de le faire, j'allais dire, de manière assez discrète, parce que je suis chez moi, je fais mon podcast, il n'y a personne qui me regarde, personne qui m'écoute. J'envoie le truc en secret, hop, tant mieux, c'est très bien, c'est cool. Voilà, j'aime bien ce genre de concours. Et quand on écoute les productions, il y a plein de belles choses. Il y en a deux, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, qui abordent le thème des cheveux. Ça peut paraître les cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un podcast sur la discrimination faite aux cheveux, c'est un vrai problème pour pas mal de personnes. Et voilà, parce qu'on est juste sur de l'apparence, sur... je ne sais pas en quoi c'est fait, en kératine, là, qu'on a ça. Enfin, c'est des poils quoi, qui datent de notre part animale, hein, parce qu'on est des animaux... d'animaux humains, des animaux parlants.
Voilà, donc ces cartes postales, elles sont à retrouver, je le redis, sur notre page SoundCloud. Et Voilà, merci Daniel. Donc, nous tâcherons de renouveler ce genre d'expérience de carte postale sonore. Donc, il me semble qu'on peut dire que la tienne, qu'on va écouter d'ici peu, Kalou, est sur un versant autobiographique, puisque dans ces cartes postales sonores, on a eu de la création sonore, on a eu des productions musicales, on a eu des fictions aussi, et des choses autobiographiques. Et alors, je vois que tu es venu muni d'un journal, peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer ?
Alors non, c'est moi, on va inverser les rôles, Mélissa, et c'est moi qui pose les questions. Je voulais savoir, est-ce que les organisatrices ont fait le lien entre ce numéro du 1, Être noir en France, paru en juin 2020, à l'époque, donc c'était George Floyd assassiné par la police, et puis donc un grand mouvement porté par la sœur d'Adama Traoré qui demande justice également. Et qu'est-ce qu'on voit donc dans ce numéro du 1 en grande page, parce qu'ils font des grandes pages, hein, à fleur de peau.
Alors je me tourne vers Michaël Achard, qui est toujours ici.
Non, c'est le hasard fait bien les choses. Du coup, on ne savait pas du tout qu'il y avait ça. On a choisi la fleur de peau, on l'avait choisi peut-être en septembre-octobre. Et c'est grâce à Laurent, du coup, l'un des membres de l'équipe. Voilà.
Eh bien voilà, je pense que... Voilà, j'espère
à mon avis, il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Eh bien, alors, puisqu'il n'y a pas de hasard, je saisis à bout de bras ce cadeau magnifique et somptueux, voilà, qu'on remet à nos gagnants. Donc, un sac, un tote bag rempli de biens non essentiels, hein, comme stipulé dans le règlement du concours. Donc, on en profite pour remercier nos partenaires aussi, hein, donc le Festival Désir, nos trois radios, bien évidemment, en toute modestie, et puis les presses universitaires François Rabelais, ainsi que le festival Désir, voilà, qui nous permettent, Daniel, de te remettre ce magnifique cadeau. Voilà, j'espère
merci beaucoup,
que...
hein, des bisous à toutes. Hein, et à voilà. Tous. Merci
voilà,
beaucoup.
Donc, hein. Je te remets ce magnifique
lourd, hein.
Cadeau. Ah oui, c'est très
bon,
très
lourd.
Voilà, merci.
Je vais te soulager.
Et puis, voilà, donc je me tourne vers David. Je crois qu'on peut écouter Kalou.
J'ai un grand-père qui était noir, d'origine africaine. Il avait grandi en Guadeloupe où il était né. Il était fils d'un homme qui avait été affranchi, fin du 19e siècle. Mon grand-père a eu des enfants avec une femme blanche qui venait de France, de Vendée, dont ma mère. Ma mère m'a raconté qu'un jour, quand j'étais tout petit, il a pris la main de ma mère sur la sienne. Il l'a posée contre sa main à lui. Puis il a posé ma main sur celle de ma mère. Et en désignant la main de ma mère, il a dit... Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Puis il a montré ma main et il a dit, mais tu verras, pour lui ça ira. De tout cela, je retiens que les individus peuvent intérioriser un sentiment d'infériorité, un sentiment d'humiliation de leur appartenance supposée à une race, qui n'est qu'invention d'ailleurs. Tout cela, Aimé Césaire en a parlé dans de nombreux livres, et il parlait donc de négritude, ce sentiment d'infériorité que les Noirs peuvent développer et que certains intériorisent ce sentiment d'infériorité. Je crois que c'était en quelque sorte le cas de mon grand-père et peut-être aussi celui de ma mère. Il est malheureux que des enfants soient exposés à ces humiliations intériorisées et ne s'en sortent pas et ne s'en dépêtrent pas. D'où la nécessité de s'instruire et de se cultiver sur nos histoires. Les histoires humaines qui se rejoignent. J'ai une grande conscience de ces différences qui sont faites au sein du genre humain, mais elles ne permettent pas, selon moi, de résumer l'identité. L'identité noire, de mon côté, se situerait plus au niveau des cultures, en fait. Des cultures, donc aussi bien d'Afrique que créole, hein, qui existent dans les Caraïbes, mais également en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et même en France. Alors de tout cela, je retiens beaucoup de choses, évidemment. Ma mère me parlait souvent d'Angela Davis. Elle m'en parlait tellement quand j'étais petit que je croyais que c'était une chanteuse célèbre qui avait sorti des tubes. C'est plus tard que j'ai compris qui elle était vraiment. La lutte est quelque chose de profondément humain. Tous les droits n'ont été acquis que par la lutte. Je retiens de tout cela aussi une nécessité de lutter contre l'ignorance, à commencer par la mienne, ma propre ignorance. Mon grand-père ne parlait pas beaucoup à ma mère. Il était assez silencieux et il a très peu parlé de son enfance, sa jeunesse et même sa vie d'adulte à sa fille, ma mère. Et j'imagine que cela a beaucoup manqué à ma mère, c'est-à-dire qu'il a tout un pan de notre histoire qui est inconnu et dont il n'y a même plus de traces, qu'elles soient écrites ou orales. Je pense que les parents devraient plus parler à leurs enfants, même de ces choses compliquées qu'ils ont pu connaître. Ça permettra aux enfants de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.